envie que quelqu'un d'autre fasse à notre place, agisse à notre place ou soit envoyé à notre place. Si vous avez répondu oui pour l'une de ces expériences, vous n'êtes pas si différent de Moïse. Ou plutôt, Moïse n'était pas si différent de nous. Il y a 2 semaines, en Exode 3, nous avons vu que Dieu l'avait appelé à retourner en Égypte, d'où il était parti depuis 40 ans, afin de libérer les Israélites, son peuple, de leurs oppresseurs. Et en effet, le peuple esclave des Égyptiens gémit, souffre. Mais Dieu a entendu. Et Dieu s'apprête à leur envoyer un libérateur. Le souci, c'est que le libérateur en question n'est pas tout à fait enchanté de l'idée. Il engage une discussion avec Dieu, avance des objections, mais au fond, peut-il vraiment s'opposer à la volonté de Dieu? Peut-il vraiment échapper à son appel? Nous le savons déjà, Moïse va finalement faire ce que Dieu lui demande. Et avant d'en dire plus, je vous invite à présent à écouter la parole de Dieu. Nous allons lire en Exode chapitre 4, les versets 1 à 17. Écoutons donc cette parole qui nous vient de Dieu. Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel n'était pas apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Tends la main et prends-le par la queue. » Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit, « Voici ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main sur ta poitrine. » Il mit sa main sur sa poitrine, puis la retira, et voici que sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main sur ta poitrine. » Il remit sa main sur sa poitrine, puis l'en retira, et voici qu'elle était redevenue normale. L'Éternel dit, « S'ils ne te croient pas et n'écoutent pas le message du premier signe, ils croiront à celui du dernier signe. » S'il ne croit toujours pas, même avec ces 2 signes, et ne t'écoute pas, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la verseras sur la terre, et l'eau que tu auras prise dans le fleuve se changera en sang sur la terre. » Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme ? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement, lui. Le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends ce bâton dans ta main. C'est avec lui que tu accompliras les signes. » À la lecture de notre texte, une des questions que nous pouvons nous poser est la suivante. Pourquoi Moïse, qui est l'auteur de l'Exode, raconte-t-il en détail le récit de sa vocation? Pourquoi il nous donne tous ces détails? Il aurait pu faire un résumé, il aurait pu être plus bref. Pourtant, c'est précisément les détails de cet échange entre Moïse et Dieu qui nous intéressent. D'un côté, les objections, la résistance de Moïse, qui nous rappelle souvent la nôtre. Et de l'autre, les réponses de Dieu, celles que nous devons aussi entendre. Et comme à l'époque, Dieu nous demande encore de croire ce matin en sa parole. Hier comme aujourd'hui, Dieu demande à son peuple d'avoir foi en lui lorsqu'il se révèle, d'avoir foi en lui lorsqu'il dit quelque chose à son peuple. ou lorsqu'il lui envoie un messager. Et au fond, j'aimerais simplement poser cette question de réflexion pour nous tous. Quel est ton degré de confiance en ces paroles d'origine divine? Quel est ton degré de confiance en ces paroles qui nous viennent de Dieu? Et la première leçon que nous pouvons voir à travers ce texte, c'est qu'avec ces paroles, Dieu donne des signes. À chaque objection de Moïse, Dieu donne une réponse. Et vous remarquez que Dieu est patient. Nous sommes déjà ici au chapitre 4, à la troisième objection. Et chaque fois, nous avons l'impression que Moïse s'enfonce toujours plus loin dans sa résistance. D'abord, il a objecté, « Mais qui suis-je, moi, pour que tu m'envoies ?» Et Dieu lui a assuré qu'il serait avec lui. Ensuite, nouvelle objection, « Mais si les autres veulent connaître ton nom, que dois-je dire ?» Nous avons vu la dernière fois la réponse magistrale de Dieu. Tu leur diras que « Je suis » m'a envoyé, que l'Éternel, le Dieu qui s'est révélé à leurs ancêtres, va les délivrer de l'esclavage, va leur dire cela. Et dans cette réponse, Dieu affirme que le message va passer. Et je relis simplement les versets 17 et 18 du chapitre 3. « J'ai dit, c'est l'Éternel qui parle, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Ébusiens, un pays où coule le lait et le miel. » Verset 18, « Ils t'écouteront. Tu iras avec les anciens d'Israël trouver le roi d'Égypte, etc. » Ils t'écouteront. Voyons à présent ce que Moïse dit ici au début du chapitre 4, au verset 1. Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, « L'Éternel ne t'est pas apparu. » Moïse avance l'argument suivant, « Le peuple ne va pas le prendre au sérieux. Ils ne le croiront pas, ils ne l'écouteront pas. » Mais dans l'histoire, il semble que c'est plutôt Moïse qui se montre incrédule. Parce que Dieu vient de dire, « Ils t'écouteront. » Et Moïse, qui sait ce qui s'est passé il y a 40 ans, lorsqu'il a été rejeté par les siens, a de bonnes raisons de croire que le peuple ne voudra pas le suivre. Après tout, qui est Moïse? Pourquoi croire ce qu'il dit, lui? Et en même temps, on constate que Dieu ne donne pas tort à Moïse. Regardez les versets 8 et 9 de notre texte. L'Éternel dit, « S'ils ne te croient pas et n'écoutent pas le message du premier signe, ils croiront à celui du dernier signe. S'ils ne croient toujours pas, même avec ces deux signes, et ne t'écoutent pas, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la verseras sur la terre, et l'eau que tu auras prise dans le fleuve se changera en sang sur la terre. » Dieu tient compte du fait qu'effectivement, le peuple a potentiellement ce cœur à ne pas écouter Dieu. Dieu connaît le cœur de l'être humain, endurci par le péché, par son péché. Oui, c'est parce que l'être humain est pécheur qu'il a tant de mal à croire en la parole de Dieu, naturellement, instantanément, automatiquement. Et Dieu peut à la fois affirmer que son peuple peut faire preuve d'incrédulité, d'endurcissement, et en même temps annoncer que finalement ils écouteront. Les deux ne sont pas contradictoires. Et si je vous dis maintenant que j'ai un message à vous transmettre de la part du président de la République, vous pouvez me croire ou non. Mais si j'ai besoin de vous le prouver, qu'est-ce que je vais apporter comme preuve? Qu'est-ce que vous avez besoin comme preuve de ce que je suis en train d'avancer? Peut-être un courrier officiel avec la signature du président. Peut-être une vidéo, c'est encore mieux, une vidéo où il s'exprime lui-même pour dire qu'il m'a chargé de transmettre un message. Mais je sais qu'aujourd'hui, toutes ces preuves peuvent être falsifiées. Et vous pourriez toujours ne pas me croire. C'est vrai ou pas? On peut faire un faux courrier, on peut monter une vidéo avec l'intelligence artificielle. Tout est faisable aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que c'est des preuves de l'authenticité de ce que je vous dis. Par contre, quand Dieu donne une preuve, ce n'est pas falsifié. Quand Dieu donne des signes, ce n'est pas falsifié. Pour les convaincre, et sans doute aussi pour convaincre Moïse, Dieu donne des signes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un signe? C'est un élément que Dieu donne qui va authentifier sa parole. Une preuve donnée par Dieu qui permet de confirmer que c'est bien sa parole qui est transmise. que le messager qui est porteur de cette parole est bien envoyé par Dieu lui-même. Voilà ce qu'est un signe. Et comme c'est le cas dans notre texte, le signe a un caractère miraculeux. Parce que vu que ça vient de Dieu, il faut qu'il y ait un caractère qui montre qu'effectivement ça ne peut pas être falsifié. Et nous voyons souvent dans la Bible cette association entre les signes et la parole. Et je vais juste citer un exemple dans le Nouveau Testament. Dans le livre des Actes, au chapitre 14, verset 3, nous lisons concernant Paul et Barnabas qu'ils restèrent donc assez longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en permettant qu'il se fasse par l'intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. Dans ce que je viens de lire, nous voyons que Paul et Barnabas annoncent la parole de Dieu et que Dieu permet qu'avec cette parole, il y ait des signes qui accompagnent cette parole. Donc souvent, nous voyons dans la Bible cette association entre la parole de Dieu et les signes. Et il ne faudrait pas les dissocier. Un miracle tout seul, sans que Dieu dise quoi que ce soit, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça peut impressionner, mais ça n'a pas beaucoup de sens. La parole de Dieu seul devrait être suffisante, mais nous sommes pécheurs et nous avons besoin aussi de ces signes qui authentifient. Pour renforcer le témoignage de sa parole, Dieu accorde des signes. Et Dieu en accorde deux à Moïse. Deux signes, même trois, et il y en aurait bien d'autres encore dans la suite du récit. Mais d'abord, le premier signe. Regardons-le ensemble. Le premier signe qui va montrer au peuple que Moïse est bien l'envoyé de Dieu. Et ce premier signe, c'est le bâton qui se change en serpent avant de redevenir un bâton. Alors vous trouverez des interprétations, si vous cherchez, des interprétations concernant le sens de ce signe. Mais moi, je voudrais juste m'attarder sur deux remarques. D'abord, que ce signe, comme le deuxième, est une œuvre surnaturelle qui montre que Dieu a autorité sur sa création. Il peut transformer un bâton en serpent. Aucun d'entre nous ne peut le faire, à ma connaissance, mais lui peut le faire. Entre les mains puissantes de Dieu, un bâton totalement inanimé peut se transformer en serpent qui fait fuir Moïse. Et ce n'est qu'un petit aperçu de ce que Dieu est capable de faire. Et il a déjà annoncé précédemment que pour faire sortir son peuple d'Égypte, il allait employer les grands moyens. Je relis Exode 3, verset 20. « Je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. » Et nous aurons l'occasion de voir quels sont ces prodiges. La deuxième remarque, c'est que le serpent est un symbole fort pour les Égyptiens. C'est le symbole du pouvoir royal, du pouvoir du pharaon. Par ce signe, Dieu montre que ce n'est pas le serpent qui est le plus fort. En effet, Moïse n'a qu'à tendre la main pour que ce serpent redevienne un bâton. Un bâton qui va symboliser l'autorité de Dieu. Dieu dit à Moïse, au verset 17 d'ailleurs, « C'est avec lui, avec ce bâton, que tu accompliras les signes. » Ce bâton, désormais, va représenter l'autorité de Dieu, sa puissance. Et j'anticipe déjà sur la suite de notre texte au verset 20, qui ne figure pas sous vos yeux, mais je lis simplement le verset 20 du chapitre 4. Nous lisons « Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna en Égypte. Il prit à la main le bâton de Dieu. » Ce bâton qu'il utilisait en tant que berger devient le bâton de Dieu. Cet objet peut donc être un bon indice, une preuve que Moïse a bien été envoyé par l'Éternel. Ce bâton qui peut se transformer en serpent et redevenir un bâton, c'est bien la preuve que c'est bien Dieu qui l'a envoyé. Et vous remarquez qu'au verset 5, Dieu précise « Voilà ce que tu feras afin qu'il croie. » Ce signe sert afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu. Le signe doit susciter la foi. Il ne doit pas juste impressionner par lui-même. Combien même c'est impressionnant. Je pense qu'on aurait sans doute la même réaction de Moïse si on voyait un bâton tout d'un coup se transformer en serpent. On aurait tendance à fuir. Mais parlons du deuxième signe. Dieu opère de nouveau une œuvre qui implique une transformation. Maintenant, après le bâton, Dieu opère ce signe directement sur la main de Moïse. Donc ce n'est plus un objet extérieur, c'est directement sur le corps même de Moïse, sa main. Cette main qui n'a visiblement aucun souci au départ, aucun souci de santé, devient soudainement, nous dit le texte, blanche comme la neige. Et cette comparaison nous montre bien que la lèpre de l'époque, dont il est question dans notre texte, n'avait rien à voir avec ce que nous appelons aujourd'hui lèpre. Et je crois que vous avez tous peut-être déjà vu, dans les transports en commun, des affiches qui montrent des lépreux aujourd'hui, et l'état par exemple de leurs mains rongées. Ben, ici, ça n'a rien à voir en fait. On ne parle pas de cela. On parle d'une main qui est blanche comme la neige. Moïse est atteint dans sa chair d'une autre maladie qui était considérée à l'époque comme incurable. Sauf si Dieu intervient. Et de nouveau, cela révèle toute la puissance de Dieu, en l'occurrence ici sur la maladie. Dieu a tout contrôle, et entre ses mains, la main de Moïse, qui est couverte de lèpre, redevient saine. Qui d'autre peut faire cela si ce n'est Dieu ? Donc s'ils ne croient pas le premier signe, ils croiront ce deuxième signe, car qui d'autre peut faire cela ? Et je ne vais pas commenter le troisième signe de l'eau changée en sang, parce que nous aurons l'occasion d'en parler lorsque nous aborderons la première plaie qui s'abat sur l'Égypte. Alors je récapitule l'idée. Dieu annonce, ce sont ses paroles, qu'il va délivrer son peuple de l'oppression égyptienne. Et pour accompagner cette parole, Dieu envoie des signes afin que le peuple croie. Et qu'est-ce que nous lisons à la fin du chapitre 4 ? Je lis les versets 30 et 31. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et accomplit les signes sous les yeux du peuple. Verset 31, le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'il avait vu leur souffrance, et ils se prosternèrent et adorèrent. Ici, alors c'est Aaron, et on va revenir là-dessus, c'est Aaron qui rapporte les paroles de Dieu, qui présente les signes, et le résultat, verset 31, le peuple crut. Et il faut l'association des deux, la parole et les signes. Et il est certain que si nous avons cru, nous avons cru avec la parole et les signes que Dieu nous a donnés. Mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors donc, ici, à la fin de ce chapitre, il est question d'Aaron, qui se charge de tout apparemment, et c'est pas Moïse. Pourtant, c'est à Moïse que Dieu s'adresse ici. Il nous faut revenir quand même à notre texte pour comprendre pourquoi. Avec sa parole, Dieu donne des signes. C'est le premier enseignement que nous pouvons tirer de notre texte. Et cela doit régler, en principe, le problème de l'incrédulité chez le peuple. Mais Moïse, lui, a toujours un problème à régler. Et c'est ce que nous allons voir dans un deuxième temps. L'idée que, en fait, Dieu a un message. Alors, ça paraît banal de dire cela, quasiment, mais Dieu a un message. Il a quelque chose à dire. Et il veut que ça soit dit. Et il veut que ça soit entendu. Je vais montrer un peu plus clair, parce que je vois certains qui froncent les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu a un message. Oui, Dieu a un message. Il a aussi un message pour nous ce matin. Je suis sûr que votre exercice préféré à l'école était, ou est encore, les exposés oraux. Alors, vu votre réaction, je me doutais bien que parler devant toute une classe à son professeur est loin d'être l'expérience la plus exaltante que vous ayez connue. Ah, les exposés, ce n'était pas toujours facile, n'est-ce pas ? Je n'ai pas beaucoup aimé cet exercice, moi non plus. Ça ne m'a pas empêché d'en donner à mes élèves quand j'enseignais. Et pourtant, encore comble de tout cela, maintenant je dois m'exprimer régulièrement en public. Mais il fut un temps, j'aurais dit comme Moïse, je ne suis pas un homme doué pour parler. Et cette partie du récit est particulièrement intéressante, et je voudrais la relire à partir du verset 10 de notre texte. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. Et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme ? Qui rend muet ou sourd ? Capable de voir ou aveugle. N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Maintenant, vas-y, Je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devrais dire. » De nouveau, Moïse veut mettre en avant qu'il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas le bon candidat. Il disait déjà avant, mais qui suis-je? Et maintenant, il essaie d'expliquer à Dieu qu'il n'est pas très éloquent. Et les commentateurs ont tenté de comprendre ce que Moïse voulait dire lorsqu'il disait qu'il avait la langue embarrassée. En réalité, il semble quand même que Moïse, surtout lorsqu'on lit la suite de l'histoire, il n'avait aucun souci avec le langage. Il pouvait parler sans problème. Certains ont cru comprendre qu'il y avait un bégaiement, mais on n'a pas l'impression lorsqu'on lit la suite de l'histoire. Lorsqu'il se retrouve devant le peuple, à un moment donné, il n'a pas de mal à s'adresser à eux. Il est plus vraisemblable que Moïse se cherche en réalité une excuse pour ne pas jouer ce rôle que Dieu lui attribue. Il sait qu'il va devoir parler au peuple, qu'il va aussi devoir s'adresser au puissant Pharaon. « Je ne suis pas un homme doué pour parler. » Et comment Dieu lui répond-il? Comment Dieu lui répond-il? Qui a donné à l'homme la faculté de parler? Qui lui a doté d'une bouche? Et je ne sais pas si vous vous considérez comme quelqu'un d'éloquent ou au contraire pas très doué en parole, mais dans les deux cas, nous ne devons pas oublier que c'est Dieu qui nous a donné la faculté de parler. Tout comme il a le pouvoir, il le dit ici, de rendre muet, sourd ou aveugle. Alors c'est juste une parenthèse par rapport à l'enseignement de ce texte, mais vivons-le, cette faculté de savoir parler, vivons-le comme une grâce de la part de Dieu. Et sachons en faire bon usage. Je pense qu'on est tellement habitué à se dire « en fait, on parle, c'est normal, on a la parole, mais elle nous vient d'où cette parole ?» Cette faculté de parler, d'exprimer nos pensées. Là où Moïse se focalise sur lui-même, « Je ne suis pas un homme doué pour parler », Dieu lui montre qu'il doit se focaliser sur celui qui a créé la bouche. Sur celui qui l'envoie, sur celui qui a un message. Vous voyez l'insistance de Dieu au verset 12. « Je serai moi-même avec toi. » Arrête de dire « je ». C'est moi qui dois dire « je », dit l'Éternel. « Je serai moi-même avec ta bouche. » Arrête de regarder à ton incapacité. Mais tiens compte du fait, je serai avec toi. Et d'ailleurs, Moïse n'a rien à inventer. Il n'a pas à inventer un discours. Lorsque Dieu lui demande d'être son porte-parole, il n'a juste qu'à être son fidèle porte-parole. Dieu a un message et Moïse n'a qu'à le transmettre. Dieu ne recherche pas en premier lieu son éloquence, mais son obéissance. Ce que Dieu recherche chez Moïse, c'est avant tout son obéissance, non pas sa faculté de savoir bien parler. Et c'est pour ça qu'il lui dit, maintenant, vas-y. Tu peux dire que tu ne sais pas parler, que tu n'es pas doué en parole, mais maintenant, vas-y, parce que je serai moi-même avec toi. Moïse ne connaît pas encore bien l'Éternel. Mais là, il va atteindre une limite. Ou en tout cas, il va atteindre la limite de la patience de Dieu. Verset 13. Moïse dit, « Ah Seigneur, on voit quelqu'un d'autre que moi !» Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Oui, Dieu peut discuter avec son serviteur, mais à un moment donné, lorsque ce serviteur se montre tout simplement désobéissant, Dieu réagit d'une manière juste. Il se met en colère. Il n'est pas bon pour l'homme de provoquer la colère de Dieu. Et cette dernière objection est celle de trop. Et de toute évidence, on le voit ici, Moïse manque de courage. Il n'a pas envie d'y aller. Et Dieu va quand même, malgré ce manque de courage, l'aider. Dieu va l'aider en lui donnant comme compagnon d'œuvre son propre grand frère Aaron. Dieu lui dit, je sais, concernant Aaron, verset 14, je sais qu'il parlera facilement, lui. Toi, tu as peut-être un problème avec la parole, mais lui, il parlera facilement. Et vous notez que la suite, ces versets 14, 15, 16, revient sur ce thème de la parole de Dieu. Dieu a un message, et il veut que ce message soit transmis. Verset 15, tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Dieu veut un porte-parole en la personne de Moïse. Autrement dit, il veut un prophète. Mais à ce stade, Moïse lui-même a besoin d'un porte-parole, à défaut de pouvoir jouer ce rôle tout seul. C'est lui, Aaron, qui parlera pour toi, dit Dieu. Aaron va donc jouer ce rôle, c'est ce qu'il nous a expliqué ici, il joue ce rôle de prophète qui transmet fidèlement les paroles de Moïse, comme si Moïse était en train de jouer le rôle de Dieu. Et bien sûr, la source de toutes ces paroles, c'est Dieu lui-même. Aucun des deux, ni Moïse, ni Aaron, n'a à écrire de discours. Dieu leur dit, je vous enseignerai ce que vous devrez faire. Dieu leur communiquera directement ce qu'ils devront dire au peuple, mais aussi au Pharaon. Et ce qui compte, ce n'est pas l'aisance ou la difficulté que nous avons avec la prise de parole, même si les exposés nous ont traumatisés. Mais ce qui compte, c'est la parole de Dieu elle-même. C'est le fait qu'un message vienne directement de Dieu et qu'il doit être transmis. Vous avez entendu, ce qui compte, ce n'est pas notre aisance ou notre difficulté à parler, mais c'est le fait que Dieu a un message et il veut que ce message soit transmis. Dieu a un message et il faut quelqu'un pour le transmettre. C'est comme ça que Dieu opère avec les hommes. Bien sûr, il peut s'adresser directement aux hommes, mais la plupart du temps, il décide de le faire par l'intermédiaire de d'autres personnes. Alors cela nous amène à réfléchir à quelques applications. Et particulièrement lorsque nous songeons au fait que Dieu nous a confié aussi un message, l'évangile de Jésus-Christ, à proclamer à toutes les nations. Telle est la mission de l'Église. Et nous avons dit que les excuses que Moïse avance, ne nous sont pas si étrangères. Et si les autres ne me croyaient pas? Ou bien, je ne suis pas doué pour parler? Peut-être que c'est ce que nous avons déjà dit à Dieu. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai déjà eu ce genre de pensée. Et si les autres ne me croyaient pas? Et en réalité, je ne suis pas vraiment très doué pour parler. Mais le texte de ce matin nous montre que ce que Dieu pense de ces objections et comment il y répond. Moïse n'est pas le dernier à avoir résisté à l'appel de Dieu et il nous arrive aussi de penser, comme lui, que Dieu devrait envoyer quelqu'un d'autre. Et si les autres ne me croyaient pas, j'aimerais m'attaquer à cette première objection. Oui, c'est possible que les autres ne veuillent pas croire, mais cela n'est pas de mon ressort. Je ne suis pas responsable de leur incrédulité. Dieu a les moyens de les convaincre, comme il nous a convaincus par son esprit et par sa parole. Moïse devait communiquer les paroles qu'il recevait directement de Dieu. Et pour nous, cette parole nous est directement révélée ici, dans la Bible. Cette parole a été écrite. Cette parole qui nous vient directement de Dieu. Dieu a donné des signes à Moïse pour son peuple, afin qu'il croie. Qu'est-ce que Dieu nous a donné comme signe pour que les autres croient? Plusieurs commentateurs ont suggéré le signe suivant, la résurrection de Christ. Oui, si Jésus est bel et bien ressuscité, revenu d'entre les morts, alors oui, tout ce qu'il dit est vrai. Cela authentifie la parole, le message qui vient de Dieu. Ce signe qu'est la résurrection authentifie le message que Jésus annonçait. Et si Jésus est bien revenu à la vie, cela signifie que sa mort n'était pas pour lui. Il n'est pas mort à cause de ses fautes. Non, lui, l'innocent, il est mort pour nos péchés. C'est le message qui est sans cesse répété par les apôtres. Jésus était innocent et il a payé pour nous, pécheurs. Et en le ressuscitant, eh bien, Dieu a démontré avec puissance que Jésus était entièrement juste et que sa mort servait à couvrir nos fautes. Oui, en ce sens, la résurrection est un signe. Le signe que Jésus était bien le messager, bien plus grand et plus dévoué que Moïse. Et c'est pourquoi, lorsque nous annonçons l'Évangile, nous n'oublions pas de mentionner que Christ est ressuscité. C'est un signe plus incroyable que ceux que Dieu a donnés à Moïse ici. Ce signe authentifie que Christ est bien le Fils de Dieu, est bien le Messie, est bien le Sauveur du monde. Et vous le savez bien, l'apôtre Paul l'a dit aussi dans sa lettre aux Corinthiens, que si on enlève cet élément-là, toute la foi chrétienne tombe. C'est un signe qui est tellement fort. Si ce signe n'est pas vrai, tout le reste est faux. Mais si ce signe est vrai, cela authentifie tout ce que Jésus a pu dire. Et cela révèle que c'est vraiment lui l'envoyé de Dieu. C'est ce signe, lorsqu'on annonce la résurrection de Christ, c'est ce signe qui doit susciter la foi chez les autres. Autrement, je ne suis pas en train d'annoncer l'Évangile. Deuxième objection, je ne suis pas doué pour parler. Avons-nous confiance dans ce que Dieu dit quand l'apôtre Paul affirme, Romains chapitre 10, verset 17, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Est-ce que nous croyons dans ce que dit ce verset, dans ce que dit l'apôtre Paul ? La foi vient de ce qu'on entend. La foi naît à partir de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Croyons-nous que la parole de Dieu, indépendamment de notre manque d'éloquence, suffit pour que la foi naisse ? À l'heure où il est plus facile de compter sur nos outils de communication, sur le visuel, sur le format vidéo, sur les podcasts, etc., nous pouvons vite oublier que nous devons d'abord et avant tout compter sur le fait que la parole de Dieu est efficace en elle-même. Tous les moyens que nous utilisons peuvent servir à la bonne transmission du message, mais ce n'est pas le message lui-même. Est-ce que nous avons tendance à nous reposer plus sur ce qui nous sert d'outil plutôt que sur le message en question, sur la parole de Dieu ? Notre responsabilité, c'est simplement de transmettre fidèlement cette parole. Ce que Dieu a dit, je ne vais pas le changer, je vais le transmettre tel que Dieu l'a révélé. Sans l'édulcorer, sans chercher même à le rendre plus pertinent, comme si, au fond, je pensais que la parole de Dieu était démodée. S'il est vrai que la Bible que je tiens en main contient des paroles qui viennent de Dieu, directement de Dieu, je crois que cela fera son effet. Si c'est Dieu qui a parlé, si c'est Dieu qui s'est révélé aux hommes, je pense que cette parole fera son effet. Et par cette même parole, Dieu nous a enseigné ce que nous devons dire, ce que nous devons annoncer. Qui nous devons annoncer ? Jésus-Christ. Je ne suis pas doué pour parler, mais c'est précisément par sa parole, à lui, que Dieu saura convaincre. Sans nous reposer sur nos propres capacités. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être éloquent. Mais ce n'est pas ça qui fait la différence. Il faut que nos contemporains entendent Dieu et que nous recevions du Seigneur le courage de ne pas dire « Envoie quelqu'un d'autre que moi ». Et je sais que le défi peut paraître grand selon notre degré de timidité, selon nos craintes. Mais finalement, nous devons nous demander quand même, en examinant notre cœur, ai-je suffisamment confiance que la parole de Dieu, à elle seule, fera l'affaire ? Et que moi, je ne suis qu'un porte-parole et que je vais essayer de la transmettre la plus fidèlement possible. Mais ai-je suffisamment confiance que la parole de Dieu, à elle seule, le message de Dieu, fera l'affaire ? Cherchons avant tout à être des porte-paroles fidèles au message divin que nous transmettons. À travers ce récit, Dieu nous demande encore de croire ce matin en sa parole. De croire de nouveau que cette parole a aussi une efficacité. Nous sommes souvent semblables à Moïse, nous cherchons des excuses, tout en admettant nos faiblesses et nos limites. Peut-être effectivement je ne suis pas doué pour parler. Mais je crois que peu d'entre nous, justement, je crois que peu d'entre nous estiment être doués en parole. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave. Dieu, lui, a déjà parlé. Et il nous appelle encore ce matin à être ses porte-paroles. À transmettre ce que lui a déjà communiqué. Oui, Dieu a parlé d'une manière très claire par son Fils Jésus-Christ. Et nous avons reçu la mission d'annoncer celui qui est la parole de Dieu. Et si les gens viennent à Jésus, s'ils croient qu'il est mort pour eux et ressuscité, alors ils connaîtront une plus grande délivrance que celle de l'Exode. Dieu a un message, alors qu'il fasse de nous des messagers courageux et fidèles. Amen.